Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Territoria pour cette toute nouvelle émission du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Un nouveau numéro consacré au service Urban Vitalis qu'on va découvrir avec nos invités du jour. Nous sommes en compagnie de Christophe Suchel. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes adjoint au sous-directeur aménagement durable de la direction de l'aménagement du logement et de la nature au sein du ministère en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Est-ce que c'est complet Christophe?
C'est complet, c'est un peu long mais c'est complet.
Bah c'est le but. À vos côtés, Salomé Deschênes. Bonjour Salomé.
Bonjour.
C'est une première dans le MAG de l'aménagement du logement de la nature.
Absolument.
Bah voilà, bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir. Et bien sûr, l'émission sans qui ça ne serait pas tout à fait pareil, c'est Hélène Parmentier. Bonjour Hélène.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires à la DGLN également et au sein du ministère en charge de la transition écologique et cohésion des territoires. En fin d'émission, Hélène, comme d'habitude, on vous retrouvera pour ouvrir le standard, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, on rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On pourra y répondre en fin d'émission. Tout de suite, la thématique du MAG.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, la thématique du MAG.
L'émission d'aujourd'hui porte sur le service Urban Vitalis qui aide les collectivités de manière personnalisée à revitaliser leur foncier à l'abandon, en collaboration avec les acteurs publics locaux. Cette start-up d'État portée par le CEREMA en partenariat avec beta.gouv.fr et sponsorisée par le ministère de la Transition écologique. Je me tourne tout de suite vers Christophe Suchel. Ce service public est porté, on l'a dit, par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, plus particulièrement la DGLN. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'enjeu de cet engagement ?
Oui, tout à fait. Alors la DGLN, comme vous le savez sans doute, est fortement mobilisée pour la conception des politiques publiques. Alors il y a évidemment une intervention en normalisation, je dirais, et en ce moment particulièrement une forte mobilisation sur tout ce qui est projet de loi, proposition de loi sur lesquelles on doit intervenir. Alors pour concevoir ces politiques, il faut évidemment être à l'écoute des acteurs locaux, il faut développer des systèmes d'information, mais une fois qu'on a conçu et qu'on a écrit la loi, il faut véritablement se préoccuper de sa mise en œuvre. Et donc la mise en œuvre, c'est le dernier kilomètre, c'est arriver jusqu'à l'usager. Et dans ce cadre-là, évidemment, la DGLN se préoccupe des outils qu'elle peut développer au travers de différents leviers d'action. En particulier dans le domaine de l'aménagement, du foncier, de l'urbanisme. Là, on est sur une compétence qui est décentralisée et décentralisée particulièrement sur le bloc communal, donc commune, interco. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, la DGLN se place en posture d'accompagnement des territoires. Donc, trois leviers d'action principaux.
Oui.
Le premier levier d'action, pour faire court, hein, évidemment, on pourrait passer des émissions entières, mais c'est la conception et la mise à disposition d'outils contractuels, donc les projets partenariaux d'aménagement, les opérations de revitalisation des territoires. C'est aussi des outils d'intervention, alors la plus juridique, hein, vous avez tous entendu parler des ZAD, donc il ne s'agit pas des ZAD, mais des zones d'aménagement différées. Il y a aussi les ZAC, les zones d'aménagement concertées, il y a le droit de préemption. Tous ces outils juridiques sont mis à la disposition des collectivités. Et puis nous avons aussi un deuxième levier qui concerne le développement d'acteurs publics. On pourra sans doute en reparler, au premier rang desquels les établissements publics fonciers, mais il y a aussi les établissements publics d'aménagement, plus récemment les offices fonciers solidaires. Et puis le dernier levier d'action, c'est l'ingénierie des territoires. C'est vraiment dans ce cadre-là que l'Urban Vitalis s'inscrit. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, au travers notamment de la mobilisation aussi des services déconcentrés de l'État, que la DGN apporte un soutien au CEREMA pour le développement de ces outils préférentiellement sur des outils qui répondent à des problématiques nouvelles ou complexes ou à des territoires qui n'ont pas forcément cette force d'ingénierie à disposition. Donc en termes de conjoncture, on est dans une conjoncture, je dirais, à la fois complexe parce que les problématiques sont plus complexes qu'avant, et en même temps, grâce notamment au plan de relance et puis au fonds vert, hein, le fonds de la transition écologique, on a des moyens complémentaires qui nous permettent de soutenir plus fortement le développement de nouveaux outils. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le partenariat avec le CEREMA a connu une forte accélération là, depuis 2-3 ans, au travers, donc, cette année, en 2023, notamment au travers du Fonds Vert, hein, qui développe un certain nombre de financements complémentaires et qui nous permet, sur le plan de l'ingénierie, d'aider encore plus fortement.
Mais oui, on en a pas mal parlé sur cette émission, Hélène, hein, 3 podcasts qui sont disponibles, qu'on peut retrouver sur Radio Territoria.
Donc, Urban Vitalis, il s'inscrit vraiment dans ce schéma-là et préférentiellement pour répondre à une ambition qui est celle de la lutte contre l'artificialisation qui a été, je dirais, portée comme enjeu national au travers de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et résilience face à ses effets.
On en a beaucoup parlé, hein, effectivement, ZAN, zéro artificialisation nette, ça a défrayé la chronique, les promoteurs sont montés au créneau, mais c'est vrai que cet enjeu de lutte contre l'artificialisation des sols est essentiel. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs le contexte dans lequel s'intègre cet appui au territoire en matière d'ingénierie ?
Oui, tout à fait. Peut-être rappeler quelques grands chiffres, hein, parce qu'on est vraiment sur des enjeux qu'il faut, à mon avis, porter assez haut et de manière à ce que ce soit partagé le plus largement possible, je dirais par tous, par les collectivités, mais aussi par les citoyens. Donc l'artificialisation des sols, pour donner quelques grands chiffres, hein, c'est 20 000 à 30 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. C'est un rythme d'artificialisation qui va à peu près 4 fois plus vite que le rythme d'augmentation de la population, ce qui est quand même un élément significatif. Et donc, pourquoi lutter contre l'artificialisation ? Alors, rappelez quand même, hein, lutter contre l'artificialisation, c'est aussi lutter contre... je dirais la limitation des surfaces agricoles, pour la préservation de la biodiversité, pour lutter contre l'imperméabilisation des sols. Et quand on lutte contre l'imperméabilisation des sols, c'est préserver aussi la ressource en eau. Et puis, lutter contre l'artificialisation, c'est aussi lutter contre l'étalement urbain. Qui dit étalement urbain, c'est l'éloignement du logement, l'éloignement des services, et du coup, la nécessité de concevoir des infrastructures supplémentaires avec des modes de déplacement qui intègrent aussi des coûts en termes de consommation d'énergie fossile et carbonée. Donc cet enjeu de lutte contre l'artificialisation est vraiment essentiel pour la préservation de la planète et aussi pour pouvoir, je dirais, concilier cette préservation avec une nécessité de développement qui reste là. Il faut fournir des logements, il faut fournir des services, il faut continuer à faire évoluer la ville et donc la ville sur la ville. Et à travers cette ambition, évidemment, la question des friches est absolument centrale. On a de l'ordre de 6500 friches aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une friche ? C'est une friche qui a été bâtie, qui est donc du coup déjà artificialisée, et pouvoir la recycler, c'est pouvoir produire des surfaces sans artificialiser. C'est vraiment l'enjeu. Et donc pour nous, pour la DGLN, c'est effectivement central de pouvoir agir sur le recyclage des friches. Comme je le disais, le plan de relance a donné un coup d'accélération à ce recyclage, avec, je rappelle quand même quelques grands chiffres, hein, 750 millions de recyclage des friches qui ont pu être apportés aux opérations de recyclage dans un objectif de financer le déficit des opérations. La difficulté qu'on a avec les friches, c'est que souvent, le recyclage des friches est plus coûteux, plus complexe.
C'est vrai.
Et du coup, amener un financement complémentaire, c'est aussi pouvoir faire émerger des projets qui, sans ce financement, resteraient sans suite. Quoi,
oui, on explique évidemment pourquoi plus coûteux, parce qu'évidemment, il y a du bâti, mais il y a aussi des fois des pollutions. Donc, il faut dépolluer, il faut retraiter, des fois, il faut enlever ce qui était là. Mais en tout cas, la parcelle existe, si j'ose dire.
Absolument. Les coûts de dépollution sont non négligeables. C'est souvent ce qui arrête d'ailleurs les maîtres d'ouvrage. Et en même temps, une friche, ça peut être une friche industrielle qui doit être recyclée, par exemple, pour du logement ou du commerce. Et du coup, c'est pas la même destination. Donc, il faut repenser aussi la friche en fonction de sa nouvelle destination. C'est un enjeu fort. C'est des opérations complexes. Et du coup, on le verra tout à l'heure. Urban Vitalis a vocation à donner les réponses à ces enjeux au bénéfice des territoires, au bénéfice des collectivités que, comme je le disais tout à l'heure, sont en première ligne, hein, s'agissant d'une compétence aménagement et urbanisme. Donc il se trouve que le CEREMA, depuis de longues dates, a acquis une compétence en termes de connaissances, en termes de procédures d'aménagement sur le foncier, a développé une série d'outils, hein, on pourra y revenir dans d'autres émissions, hein, sur la connaissance du foncier. Et là, vraiment, l'enjeu pour les friches, c'est pouvoir les qualifier. De quelle friche il s'agit, qu'est-ce qui pourrait être fait sur ces friches et comment les recycler. Alors évidemment, lorsqu'on a dit ça, les collectivités, les acteurs locaux se disent par où je peux commencer ? Oui. Quelles sont les étapes ? Quelles sont les modalités de financement ? Quels sont les acteurs multiples qu'on peut faire intervenir ? Alors toutes ces questions-là, évidemment, on cherche les réponses et Urban Vitalis est un moyen de donner les réponses, comme on pourra le voir par la suite.
Alors justement, je pensais sur Urban Vitalis. Merci pour ces explications, Christophe. Salomé Deschênes, vous êtes avec nous, urbaniste, donc au sein d'Urban Vitalis. Et c'est vous qui aiguillez chaque jour les collectivités qui ont ces besoins d'aide sur leurs projets de friche. Alors comment est née cette idée d'Urban Vitalis ? Pourquoi une start-up ?
Alors, comme le disait M. Suchel, hein, les collectivités et porteurs de projets sont souvent démunis face à ces projets d'aménagement complexes. Et en même temps, du côté des acteurs publics locaux qui interviennent, hein, sur les friches, beaucoup déplorent un manque de visibilité sur les projets sur le territoire. Et donc avec une difficulté quand même assez grande à suivre dans la durée et de se coordonner à plusieurs acteurs, parce qu'un projet d'aménagement complexe, c'est plurithématique, et donc il faut pouvoir se coordonner. Et du coup, en complément de carte aux friches, le CEREMA a investigué de mars donc à mai 2020 afin d'essayer de comprendre quel blocage il y avait à ces projets de revitalisation. Et une fois que les friches ont été identifiées, on a remarqué que ça a vraiment été en fait le manque d'ingénierie qui a été identifié comme principalement un gros blocage, hein, pour les petites collectivités. Et donc la construction du service, pardon, a débuté en fin mai 2020. C'est notamment par une méthodologie donc plus agile, hein, que nous sommes tournés vers la méthode Betagouv, et qui est donc l'incubateur des services publics numériques. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de construire un service qui est pour les collectivités, mais aussi avec elles. Parce qu'on prend, par exemple, une grande place pour faire des tests utilisateurs, mais on accorde également une grande importance donc, à l'impact qu'on a. Donc on essaie de calculer au quotidien si réellement les conseils qu'on apporte ont un vrai impact, hein, sur les collectivités qui sont aidées. Et pour vous donner, par exemple, quelques chiffres, hein, aujourd'hui, là, en deux ans, on accompagne déjà 250 friches avec un taux de passage à l'action de 70%. On a à peu près 80 départements où on a au moins un conseiller local, donc notamment des DDT qui sont présents sur la plateforme en ligne. C'est près de 70% des dossiers qui sont déposés par des communes de moins de 5000 habitants. Donc on est vraiment dans de la petite collectivité sans ingénierie, hein, comme je le disais. Et on compte notamment, par exemple, 93 communes Petites Villes de Demain, donc qui sont un dispositif pour aider les collectivités de petite taille.
Alors c'est ce que vous disiez, hein, Salomé, souvent, on a cette friche. Comment on fait, surtout quand on est une petite commune à qui on s'adresse, on n'a pas forcément les ressources. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et surtout, le passage à l'action, c'est le plus important. Là, quand même, 7 sur 10 qui passent à l'action, c'est vraiment très bien sur ces 250 première friche, en tout cas suivie. L'ambition à plus long terme, quelle est-elle ?
Alors les urbanistes du service, bien sûr en coopération avec les acteurs locaux, donc agents du CEREMA, des DT, agents des EPF aussi. Là aujourd'hui, l'ambition aujourd'hui, c'est de conseiller les communes et les EPCI qui souhaitent réhabiliter du foncier à l'abandon. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à les faire passer à l'action. On le disait, hein, mais l'enjeu, il est vraiment là. Parce que toutes les collectivités ont des idées, ont envie de faire des choses, mais on se rend compte que la marche est assez haute pour commencer à faire quelque chose. Et donc vraiment, l'ambition première, c'est de les aider à faire ce pas-là. Et notamment, donc, grâce à cet outil en ligne, hein, qui est une plateforme qui sert de hub, de point de rencontre pour les collectivités qui sont en demande. Hein. Et on essaye, nous, de les diriger donc, vers les bons dispositifs, les acteurs spécialisés. Et puis, bien sûr, avec cet objectif de lever les blocages rencontrés sur le terrain.
Alors, qui peut en bénéficier concrètement ?
toutes les collectivités en France hexagonale et comme dans les Outre-mer, et ça je le précise, qui ont besoin d'aide pour réhabiliter leurs friches, une ou plusieurs. On a plusieurs collectivités qui viennent en disant, bah voilà, moi j'ai ce panel de 4 friches, comment est-ce qu'on fait, par où est-ce qu'on commence, et nous on incite à potentiellement déposer plusieurs friches parce que ça permet aussi après aux acteurs du territoire locaux de pouvoir prioriser tout ça. Et donc, alors comme le disait Monsieur Suchet, nous ce qu'on entend par friche, c'est vraiment tout type de foncier artificialisé sur lequel en fait la main de l'homme est passée, mais qui a aujourd'hui perdu son usage. Donc on ne fait pas de distinction sur le type de friche, et donc dès qu'une collectivité a ce foncier abandonné, ben elle est la bienvenue.
Est-ce que vous avez des exemples, justement, quel type de projet vous accompagnez ?
Oui, alors c'est assez varié. Hein. C'est vrai qu'on passe de la résidence abandonnée vers l'ancienne usine très polluée, des petits espaces commerciaux inexploités ou encore d'anciens châteaux. On est aussi beaucoup appelé pour du patrimoine. Donc il y a une vraie thématique autour des friches patrimoniales. Et nous accompagnons également donc, tous les types de futurs projets. Parce qu'il y a la friche aujourd'hui, mais il y a le devenir de cette friche. Et nous, notre seule condition, c'est qu'il y a une vraie volonté politique et que le projet n'engendre pas plus d'artificialisation que sur la friche initiale. Et donc, ça peut être des futurs projets d'habitat, d'équipements publics, des projets culturels, de la renaturation. Voilà, on ne fait pas de différenciation sur les futurs projets.
Très bien. Alors, pratiquement, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais, voilà, moi, j'ai une friche, il faut absolument que je m'en occupe. Quelles sont les modalités pratiques d'accompagnement pour les collectivités ?
Oui. Alors, dans un premier temps, les collectivités ont la possibilité, donc en se rendant sur urbanutalis.fr, de remplir un questionnaire qui est détaillé, qui est thématisé et qui guide, en fait, dans les questions à se poser. Parce qu'une friche, c'est beaucoup d'enjeux et on se rend compte que, justement, pour ce passage à l'action, il faut se poser beaucoup de questions, mais les bonnes questions. Et donc, on les aide à répondre à ces questions-là, à avoir un petit peu une fiche d'identité de cette friche. Et donc ça, c'est la première étape. Donc par la suite, elle nous parle aussi du potentiel futur de cette friche-là, de son contexte. Et donc, c'est vraiment un outil méthodologique qui est très utile pour les collectivités qui ne savent pas par où commencer. Et donc, par la suite, les urbanistes, donc Anouk et moi, on appelle les collectivités pour échanger un peu plus sur le détail des projets. Donc, même si c'est un outil numérique, nous, derrière, il y a une équipe de personnes qui analysent les dossiers. Et donc, on n'est pas sur une automatisation complète de l'aide des collectivités, même si la première porte d'entrée est numérique. Nous, derrière, on est une équipe qui prenons en charge ces dossiers-là.
Bon, on rassure tout le monde, donc c'est pas un robot. Hein.
C'est ça.
C'est une vraie personne humaine qui étudie le dossier.
C'est ça. Et donc, on essaie de mieux cerner leurs enjeux. Et donc, par la suite, on leur propose des recommandations. 5 en moyenne, mais des fois, c'est une seule, parce que la question est très précise et qu'on a la réponse. Et parfois, ça peut être une dizaine, parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont couvertes. Et donc, lors de ces échanges, on peut envoyer des conseils. Des fois, ce sont des outils réglementaires, des stratégies pour essayer de mettre en place certaines choses, des dispositifs, des financements, bien sûr, et c'est généralement pour ça aussi qu'on vient nous voir, c'est parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais on essaye de réfléchir les financements de manière intelligente. Donc, pas simplement aller chercher du financement, mais savoir pourquoi et s'il est, oui ou non, adapté finalement au projet. Et puis, bien sûr, toutes les différentes prestations d'acteurs et de contacts. Et en parallèle, donc, les acteurs locaux sont aussi sur la plateforme. Donc, Urban Vitalis donne accès aux dossiers, aux acteurs locaux du territoire, donc en particulier les DDTM, qui sont mis autour de la table et qui peuvent réagir et proposer eux aussi leurs conseils, et donc là, de manière un peu plus réglementaire et bien sûr avec une connaissance beaucoup plus fine du territoire. Et donc l'outil numérique permet également du suivi dans le temps, et c'est ce qui est intéressant, c'est que même si on a aujourd'hui une question à l'instant T, potentiellement dans 6 mois, ce projet aura évolué, les questions auront évolué aussi, et nous ça nous permet d'avoir du suivi.
Pour être centralisé au même endroit.
C'est ça, c'est ça.
Justement, qu'est-ce qui contribue au succès du service, puisqu'on l'a vu, il y a déjà pas mal de personnes, de collectivités qui ont fait appel à vous.
Oui, alors j'ai commencé à le dire un petit peu au finigramme, mais c'est vraiment l'équilibre entre l'humain et le numérique. Donc on a un outil numérique qui permet ce partage d'informations entre les nombreux acteurs qui sont concernés. On a un suivi dans le temps et finalement, ça facilite les relations humaines et c'est vraiment indispensable pour accompagner les collectivités en déficit d'ingénierie parce que c'est très complexe de savoir exactement qui appeler à quel moment. Et donc, on a vraiment une présence grandissante des acteurs publics de l'ingénierie qui sont sur la plateforme. Et ça, vraiment, ça contribue au succès du service. Et puis après, en fonction des territoires, comme je le disais, donc des fois, ce sont des DDT, des EPF, des agents du CEREMA qui sont présents. Et c'est finalement grâce à leur connaissance approfondie sur les dossiers, des fois, qui sont déposés. Des fois, ce sont des friches qui sont connues par les services depuis beaucoup d'années. Et nous, ça nous permet d'enrichir un petit peu des deux côtés, d'avoir, nous, notre vision un petit peu aussi nationale de cette gestion des friches, avec une vision qui est beaucoup plus territorialisée. Et c'est finalement tout ça qui fait qu'on peut travailler ensemble de la meilleure manière. Et puis, le service répond donc à des blocages qui sont vraiment très variés. Donc, on peut être vraiment sur une simple méthode pour commencer, des recherches de financement, etc. Mais nous, le fait de proposer des recommandations qui sont adaptées, ça nous permet vraiment d'être très spécifique. Donc des fois, on peut envoyer par exemple un courrier type ou un exemple de cahier des charges. Et toutes ces problématiques donc, nous ont permis de créer aujourd'hui près de 365 ressources qu'on consolide au quotidien. Donc chaque ressource est une réponse à une question qui a été posée par les collectivités. Et vous le voyez, même en faisant un petit calcul rapide, 250 collectivités, 365 ressources. Donc on est vraiment sur un rapport qui est assez beau. Et on est dans de la réutilisation de ces ressources. Donc quand on répond à une collectivité dans le Gers, potentiellement c'est aussi la même réponse pour une collectivité du Nord. Et nos ressources sont consultables et disponibles. Donc on en est preneur si vous avez des retours.
Alors justement, comment on va faire le pas à pas? Première chose, on va sur le site Urban Vitalis, U-R-B-A-N, Vitalis, V-I-T-A-L-I-Z.fr. Et à ce moment-là, on voit un gros bouton quand on arrive sur le site. Solliciter Urban Vitalis, c'est comme ça?
Exactement. Et par la suite, donc on remplit un petit formulaire très court avec les coordonnées, le nom de la friche. En quelques mots, nous expliquer l'objet de la demande, de nous dire bon, voilà, moi je viens pour tel type d'accompagnement, ou je sais pas comment me faire accompagner, mais on a un projet de friche dans la collectivité. Ouais. Et puis, comme je disais, donc on échange par la suite donc avec la collectivité pour clarifier les besoins, et elle reçoit ses recommandations directement en ligne. Et par contre, si on n'a pas de réponse immédiate, nous on rentre dans un processus de veille et on revient par la suite vers la collectivité. Donc ça nous permet de voir un petit peu qui dans notre réseau pourrait nous aider à répondre à leurs questions.
Avec un bouton, je souhaite ajouter cette friche à la cartographie publique des friches, ce qui permet de faire connaître ce site à des porteurs de projets potentiels.
Alors, via carte aux friches, oui. Ouais. Nous, de notre côté, on ne fait pas cette mise en relation friche-porteur de projet. Par contre, par la suite, sur carte aux friches, elles seront accessibles, oui.
Ça permet d'avoir justement avec carte aux friches cet accès à toutes les friches, effectivement. C'est très intéressant. Alors, on va parler maintenant des pistes de développement. On se tourne vers le futur. Qu'est-ce qui va arriver? Quels sont les prochains développements?
Alors, nous, vraiment, là, l'objectif, c'est de poursuivre le déploiement auprès des collectivités. Donc, comme vous le disiez, c'est un bon début, 250 projets qui ont été déposés sur la plateforme. Mais si on veut monter en ordre, il faut aussi qu'on soit en capacité d'aider de plus en plus de collectivités et donc de poursuivre les évolutions du service pour que les collectivités puissent toujours aussi facilement échanger avec l'équipe de suivi et demander de l'aide en cas de blocage. Et bien sûr, en favorisant cet impact dont je vous parlais au début, parce que pour nous, c'est ce qui est important. C'est pas de simplement donner un service, c'est qu'il soit efficace et que ça puisse servir en vrai, j'ai envie de dire. Et en parallèle, donc, l'objectif est de maintenir ce passage à l'action en ayant en parallèle vraiment aussi une vraie implication des acteurs locaux sur la plateforme et puis de pouvoir par la suite répondre à des questions qui des fois sont très simples mais qui pour les collectivités peuvent paraître assez compliquées. Et donc, et pour terminer, je pense que le service aujourd'hui, qui est un service humain, mais qui est vraiment très optimisé par le numérique, est intéressant pour d'autres domaines d'accompagnement opérationnel. Et nous sommes déjà sollicités pour outiller d'autres écosystèmes de conseil. Et donc, il y a eu la mise en place, la mise à disposition de l'outil numérique ouvert et gratuit, qu'on continue d'améliorer, donc nous, au fil de l'eau, qui se nomme donc RECOCO, pour recommandations collaboratives. Et qui aujourd'hui, par exemple, a un portail Éco-Quartier ou SOS Pont pour aider les collectivités à savoir comment entretenir et rénover leurs ponts.
Voilà, donc urbanvitalise.fr. Pour ceux qui débutent complètement, il y a même un webinaire sur la première page, avec vous, Salomé.
Tout à fait.
Environ,
encore moins.
Quelques 30 minutes, en tout cas, pour bien comprendre, pour démarrer et en savoir plus sur Urban Vitalize. Les types de projets, bon, on va venir peut-être dans les questions tout à l'heure, mais aujourd'hui, les types de projets, les solutions, ça se transforme en quoi ? Christophe nous en a un petit peu parlé, c'est la réhabilitation, c'est du logement, c'est des bureaux, ça peut être une école, c'est quoi
Il y a énormément de projets qui sont mixtes. On ressent dans ces collectivités, on ressent dans ces collectivités un besoin de logement, hein, mais on a aussi souvent, on vient compléter un petit peu le tout avec du commerce de proximité, des services publics aussi. Donc on est vraiment généralement dans du projet qui est assez global et c'est des projets qui sont très structurants pour les territoires.
Très bien. Avant de passer aux questions, je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les prend tout à l'heure en fin d'émission. Mais auparavant, Hélène ?
Oui, Fabrice, je vous propose d'écouter un témoignage d'un territoire bénéficiaire avec Alexandra Delahaye. À votre micro.
Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, direction la commune de La Guerche-sur-Laubois dans le Cher. On est en compagnie d'Alexandra Delahaye. Bonjour, Madame Delahaye.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission Petite Ville de Demain à La Guerche-sur-Aubois. Avec vous, on va découvrir ce projet pour lequel vous avez fait appel à Urban Vitalize. De quoi s'agit-il ?
Nous avons une gare qui n'est plus ouverte et donc pour obtenir les contacts au niveau de la SNCF et notamment SNCF Gare et Connexion, nous avons fait appel à Urban Vitalize qui permet d'aider à remobiliser les bâtiments vacants ou les friches qui peuvent poser problème et qui sont un point central pour la revitalisation des petites communes.
Question en particulier à Urban Vitalize, c'était à qui s'adresser ? C'est vrai que dans le maquis hein, de la SNCF, qui est un énorme groupe, c'était pas évident de savoir à qui s'adresser pour essayer d'organiser cette traversée de la voie ferrée.
Oui, tout à fait, parce que finalement, le contact que nous avons aujourd'hui fait partie de SNCF Gare et Connexion, mais la SNCF est divisée en différentes entités qui compliquent parfois la communication entre tous.
Comment, du coup, Urban Vitalize vous a aidé pour identifier la bonne personne ?
Eh bien, ils ont organisé une vidéo au départ pour qu'on présente nos problématiques et concernant la gare. Ensuite, ils ont fait des recherches de leur côté. Ils nous ont dit que globalement, ils devaient pouvoir assez facilement nous trouver un contact au niveau de la SNCF parce qu'eux avaient déjà amorcé un peu cette question-là. Et puis, ils sont revenus vers nous pour nous dire qu'ils avaient eu un contact et que même, il y avait un appel à projet Place de la Gare qui permet de remobiliser pour une activité commerciale ou de service les gares qui ne sont plus ouvertes au public par la SNCF.
Voilà donc la gare de La Guerche. La Guerche sur l'Aubois, c'est dans le Cher. Salomé, vous y êtes allé, bien sûr, dans la gare.
Tout à fait.
Malheureusement,
on ne peut pas y aller. On est deux et donc on suit 250 friches. Donc j'aurais adoré visiter. On est souvent invité d'ailleurs, mais non, malheureusement, je n'ai pas pu visiter.
Alors Alexandra Delahaye, qu'on remercie. Effectivement, elle a fait appel à vous. Population 3200 habitants à peu près. Donc c'est pile dans ce que vous nous racontiez, hein, Christophe, des petites communes, peut-être qui sont un petit peu démunies. Là, il faut traverser effectivement les voies. Comment on fait ? Pas évident. Vous vous souvenez de ce dossier, Salomé ?
Bien sûr, oui, c'est moi qui avais accompagné la commune. Et donc, suite à un webinaire avec le dispositif Petite Ville de Demain qu'on avait fait, cette collectivité est venue nous voir et nous a dit ben voilà, je ne sais pas du tout qui appeler, je ne sais pas par où commencer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contacts. Et donc, ça a vraiment été un travail un petit peu. Alors, même si on avait nous déjà des contacts dans le carnet d'adresses, mais ça a été d'essayer de voir ben justement, alors. Certes, voilà leur projet, ils veulent faire en sorte de traverser cette voie ferrée, mais il y avait aussi la gare qui était inutilisée. Et donc, avec le bon appel à projet et la bonne personne qui contactait, ils ont pu mettre en place...
Oui, Christophe a souri quand je dis le maquis de la SNCF, mais c'est pas évident quand on connaît pas à qui s'adresser, Christophe.
Oui, non, mais tout à fait. Et je trouve que ça répond vraiment à un besoin, hein, la preuve en est. Je voulais juste insister sur ce dossier qui me semble assez intéressant, parce qu'on est sur, vous l'avez dit, une commune, on va dire, pas tout à fait petite, mais plutôt, on va dire, moyenne petite. Mais c'est aussi dans ces territoires-là que l'artificialisation est le plus rapide, curieusement. Donc on est vraiment sur les, comme vous le dites, sur les enjeux prioritaires en matière de politique publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, réhabiliter une friche, c'est aussi, comme le disait Salomé, un petit peu participer à la structuration de l'urbain dans ces petites villes. Et donc, en fait, il y a un double effet positif. C'est évidemment la lutte contre l'artificialisation, mais c'est aussi réutiliser quelque chose qui, pour le coup, est une gare qui a été structurante dans le passé, oui. Et qui doit redevenir, partie prenante de l'urbanité et, en fait, de la ville, hein, et du fonctionnement de la ville. Donc, je veux insister sur, en termes de politique publique, les collectivités locales ont tout intérêt à s'investir sur des sujets comme ça, qui sont certes complexes, mais dont les retombées dans le temps sont absolument positives sur les deux points de vue que j'évoque.
Oui, c'est vrai. D'autant que c'est vrai que la tentation de la facilité, ça serait peut-être de construire juste à côté, le champ d'à côté, et aujourd'hui de se dire, mais on a finalement ce foncier dont on se sert plus, et on va le voir peut-être dans les questions, mais en plus je trouve que ça a un certain cachet, la gare qui est habitée dans un tiers-lieu, mais on a aussi tous des exemples, les quais de Bordeaux, etc., des entrepôts désaffectés qui prennent une seconde vie et qui sont appréciés parce que, un, ils sont très bien placés, forcément, on est au cœur de la ville, et finalement, on récupère du territoire en préservant effectivement la nature. Allez, tout de suite, on va passer à la dernière partie de l'émission avec vos questions.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
Hélène, on se tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions qui sont tombées pendant l'émission ?
Oui, Fabrice. Alors, je vais poser une première question. Nos auditeurs se demandent, est-ce que Urban Vitalis peut remplacer une assistance à maîtrise d'ouvrage ?
Et malheureusement, non. Alors oui, alors nous, on fait vraiment du conseil de premier niveau. Donc, c'est un service d'aiguillage. On est vraiment là un petit peu, et l'image est bonne, hein, pour mettre les bons wagons sur les bons rails et faire en sorte aux collectivités de commencer ce voyage de la réhabilitation. Mais voilà, on est vraiment, nous, là pour faire en sorte qu'il y ait de bonnes bases pour démarrer le projet. Mais malheureusement, voilà, on ne remplace pas un bureau d'études ou une AMO.
Alors, on a une deuxième question d'un auditeur. Est-ce que, en fait, on peut avoir accès à son projet sur le service en ligne, par exemple un promoteur ?
Alors aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent avoir accès au dossier sont des acteurs publics. Donc le service ne sert pas, comme je disais, à faire de la publicité pour les acteurs de projets privés ou de mise en relation. Donc on est vraiment là sur un service d'aide, une plateforme publique, donc entre collectivités et acteurs publics de l'aménagement.
Troisième question, comment concrètement je peux faire pour partager vos recommandations à des élus ou à des collègues ?
Alors, l'outil permet de partager facilement l'état des lieux, et ça a été quelque chose qui nous a été demandé au fil du temps. Et donc, on peut le premier état des lieux qui a été rempli, on peut par exemple le partager grâce à un lien qu'on peut envoyer par mail à ses collègues ou à ses élus. Par contre, après, si vous le souhaitez ou si vous souhaitez donner accès vraiment à tout votre dossier sur Urban Vitalis, il y a une petite plateforme d'invitation où on peut inviter d'autres membres de la collectivité ou par exemple une association avec qui on travaille. Et donc, on peut faire en sorte d'être vraiment dans ce projet collaboratif sur la plateforme.
Oui, vous avez beaucoup insisté là-dessus, justement, c'est de la concertation, de la co-création. En tout cas, on peut partager, c'est l'idée, hein, de mettre en relation tout un tas d'acteurs autour de la table.
Tout à fait.
Également une question, est-ce que les urbanistes du service peuvent aider la collectivité à la définition du futur projet ?
Ah oui, alors, ça c'est intéressant. Ouais.
Bon, on aurait bien aidé. Hein.
Comme vous disiez, souvent on a identifié le problème, par contre les solutions ou les pistes de solutions, on ne les a pas forcément.
Alors nous, c'est vrai que des fois on tombe sur des petites pépites, hein. En tant qu'urbaniste, on aurait aimé suivre le tout de A à Z, mais ce n'est pas notre rôle premier. Là vraiment, on peut éventuellement donner des retours d'expérience, hein, d'autres collectivités qu'on a accompagnées, c'est ça aussi, le service sert aussi à ça. Par contre, on va faire en sorte que vous soyez accompagné par les bons acteurs qui pourra vous aider vraiment à définir le projet. Mais nous, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans un accompagnement qui est aussi lourd.
Ça doit être un petit peu frustrant aussi pour vous parfois.
Oui, mais on prend beaucoup de nouvelles, notamment avec Amélie. Donc on est plusieurs dans le service, donc on fait beaucoup de suivi avec les collectivités. On les rappelle pour savoir comment ça se passe, comment est-ce que ça avance, est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui seraient remontées. Et donc, même si on n'est pas là tous les jours avec eux, on est vraiment quand même dans ce travail de suivi au quotidien, parce que c'est mine de rien des projets qui sont longs, et donc quand on commence il faut pas lâcher.
Et puis peut-être rajouter aussi que parmi les acteurs, notamment publics, qui peuvent intervenir, il y a par exemple les agences d'urbanisme, il y a aussi les urbanismes conseils ou architectes conseils auprès des DTT, qui du coup peuvent être mis en relation avec la collectivité, oui. Ce qui est aussi, ce qui est aussi un intérêt fort de l'outil.
Alors, on va prendre peut-être une dernière question. Tout à l'heure, Salomé, vous nous avez partagé votre définition de ce qu'est une friche pour le service. Donc, on a un auditeur qui nous demande de partager peut-être votre définition juridique de la friche.
Alors, effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisque dans le cadre du projet de loi climat et résilience que j'évoquais, il y a effectivement la friche a été nommée et un décret d'application doit être pris. Il reste à prendre pour définir juridiquement ce qu'est une friche. Dans l'état actuel de la réglementation et de la loi, on a une vision assez large de la friche, comme l'a dit Salomé. En particulier, je l'ai dit pour le plan de relance, et c'est aussi vrai pour le fonds vert, j'ai oublié de le dire, du coup j'en profite, le fonds friche est pérennisé dans le cadre du fonds vert avec un montant de 300 millions d'euros. En 2023 et à vocation à être reconduit les années futures. Donc, dans ce cadre, par exemple, du fonds vert, on a une exception très large de ce qu'est une friche. En fait, c'est un territoire qui est déjà bâti, que ce soit du point de vue industriel ou du point de vue de l'habitat ou même du point de vue administratif. Il y a souvent des cités administratives, par exemple. Et donc, la caractéristique, c'est que l'usage initial qui était prévu sur ce foncier n'est plus d'actualité. En fait, c'est un peu à travers cette notion de vacances en fait, qu'on va exprimer la définition de ce qu'est une friche.
Très bien. Salomé, j'ai une question moi, pour Urban Vitalis, justement. Si tout le monde commence à vous appeler, parce que des friches, il y en a des centaines, voire des milliers en France, on se dit que l'équipe est petite. Est-ce qu'elle a vocation à grandir, à s'étoffer? Quelle est l'étape d'après?
C'est un problème que je nous souhaite.
Ah oui, de...
Alors aujourd'hui, on est en capacité de gérer au compte-gouttes. En moyenne, on a à peu près 15 sollicitations par mois. Donc ça reste un volume qui aujourd'hui est gérable. Mais c'est aussi.
Et après cette émission, oui. Quand vous en aurez 15 par jour.
Et ben on fera appel aux acteurs locaux du territoire qui sont là aussi présents pour aider les collectivités et qui connaissent beaucoup mieux. Donc nous, l'objectif, que l'équipe grandisse ou pas, et je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais c'est vraiment de réussir à travailler ensemble. Aujourd'hui, sur le territoire français, on a des structures qui existent et l'objectif, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ce n'est pas tant une question d'équipe ou de nombre, c'est vraiment une question de réussir à fonctionner
bien
ensemble
sûr.
Avec les choses qui existent déjà et qui pourraient être créées par la suite.
Et vous arrivez vous-même à vous connecter à l'ensemble des acteurs, des GLN, etc., pour avoir accès aux meilleures ressources, aux meilleurs spécialistes?
Tout à fait. Oui, on essaye.
Allez, ouais, juste,
je vous en prie.
Il y a notamment les établissements publics fonciers dont tu as parlé, Salomé, qui sont quand même au cœur, puisqu'ils sont, oui. Ils interviennent en amont pour la maîtrise du foncier, c'est-à-dire l'acquisition et le portage, le temps que les collectivités ou un acteur public prennent le relais pour construire l'opération. Et donc, dans les priorités qu'on donne, nous, aux EPF d'État, qui couvrent, 75% du territoire, malgré tout, il y a évidemment le travail sur la friche. C'est-à-dire la priorité d'intervention des EPF, c'est sur le foncier déjà artificialisé pour pouvoir le recycler. Donc, on voit que tout ça est très cohérent, en fait. Il y a une espèce de... Oui, il y a un train, t'as pris. Ça a pris l'exemple du train.
Oui, oui.
Donc il y a la locomotive qui peut être Urban Vitalis. Et derrière, il y a des wagons d'acteurs qui ont aussi comme priorité d'intervenir sur la lutte contre l'artificialisation.
Ouais. Vous êtes sollicité par les promoteurs. On sait que c'est compliqué pour eux avec ce... On le disait tout à l'heure, la ZAN, zéro artificialisation nette. Ils sont en recherche de foncier. Les maires ont serré un petit peu resserré les cordons. C'est compliqué aujourd'hui d'en avoir. Du coup, la friche, ça apparaît comme une solution. Il y a des promoteurs qui se penchent. Ils vous sollicitent également ou pas?
Oui, on reçoit souvent quelques mails pour savoir si on n'aurait pas un petit portefeuille de friche, mais si on peut aider nos amis promoteurs, c'est justement d'aller voir dans ces collectivités avec des zones un peu plus détendues. Aujourd'hui, on a l'impression, et surtout les collectivités, c'est le retour qu'elles nous font, que tous ces porteurs de projets privés sont que dans les métropoles et les grandes villes, et finalement, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans des collectivités de plus petite taille. Et donc, je pense que quand on va réussir à faire une synergie entre tout ça, ça pourrait être très intéressant, comme pour les collectivités, comme pour les porteurs de projets privés.
Mmh, tout à fait. En tout cas, un super service, une très belle initiative. Hélène, pas d'autres questions entre-temps? On a fait le tour. Écoutez, un grand merci. Merci également à Christophe Suchel, Salomé Deschênes pour vos éclairages. On rappelle à nos auditeurs le site du service, donc Urban Vitalis tout attaché, VITALIZ.fr. Je crois qu'on a trouvé la définition, Salomé, service d'aiguillage pour commencer le voyage de la réhabilitation. C'est plutôt bien dit. Merci à vous en tout cas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau MAC de l'aménagement, du logement et de la nature.
Le MAC de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.